11h30, Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1 pour une émission best-of. En cette fête de l'Ascension, il est-il Jésus en pleine résurrection après la cuite mémorable qui s'est prise hier soir. Le divin enfant Ben H est avec nous.
Ouais. Amen, Anne Romanoff, bonjour à tous.
Il en a marre de tous ces jours fériés, car qui dit jour férié dit pont, dit belle-mère et enfant à la maison. Il est épuisé. Jean-Philippe Vizini.
Je les embrasse. Bonjour à tous, bonjour les amis.
Elle n'a pas attendu les élections pour être écolo, vu qu'elle utilise depuis des mois ce que contient les couches de sa fille comme fertilisant pour ses plants de soja.
Rien ne se jette, tout se réutilise.
La jardinière de Montreuil, la sauveuse de la planète, Christine Béroux.
Bonjour à tous.
Et elle garde le sourire malgré le fait qu'elle passe un jour férié supplémentaire en compagnie de ses chroniqueurs. Ou alors elle garde le sourire parce qu'elle passe une fois de plus la journée avec vous, Anne Romanoff. Ouais, ouais.
Au sommaire de cette émission Best of, Ben H nous parlera du tournoi de Roland-Garros. Yes. Nous réécouterons les meilleurs moments de l'émission avec trois de nos invités, Lara Fabian, Michel Onfray et Isabelle Nanty.
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Enfin, une bonne nouvelle, il va faire beau et chaud ce week-end avec un thermomètre flirtant avec les 30 degrés dimanche. Qu'est-ce que vous avez prévu? Moi déjà, j'aimerais bien flirter. Jean-Philippe?
Vous avez dit 30 degrés, mais on n'est pas loin de la canicule. Moi, je vais aller faire un footing en plein soleil avec une copine.
Ah bon, qui ça?
Ma belle-mère.
Ben H?
Bah moi, je comptais faire un barbecue chez un pote, mais si sa belle-mère ne résiste pas au footing sous le soleil, j'ai peur que ce soit plus grillé pour elle que pour les chipots.
Christine?
Bah moi, je vais au barbecue chez JP. Chez lui, je peux bien supporter 30 degrés. J'ai passé l'année à supporter son second degré, alors.
Je sais pas comment on doit le prendre.
Bien, toujours.
C'est vrai,
bien.
Donc, on doit dire aux auditeurs que Jean-Philippe Bizy nous a invités chez lui.
Voilà. Et on ne donne pas l'adresse.
Et on va donner, on va inviter quelques auditeurs aussi.
Ah, bah,
bien sûr.
C'est merveilleux.
Alors, c'est le 12 avenue Général de Gaulle à Orléans.
C'est très généreux de votre part. Vous invitez combien d'auditeurs?
Tous, je les invite tous à Orléans, le 12 avenue du Général Leclerc. Voilà, vous sonnez, vous dites que vous venez de ma part.
Mais il faudra bien écouter l'émission de lundi. Je pense qu'on aura des choses à raconter, a priori.
Ben H, vous comptez faire quoi ce jour férié?
Écoutez, je vais à Roland-Garros.
Ah bon, pour voir un match de tennis?
Non, Anne, pour le salon de l'agriculture. J'adore les vaches, bien sûr. Oui, évidemment, je vais à Roland-Garros pour voir un match de tennis.
Mais vous aimez le tennis, Ben H?
Alors, pas du tout. J'en ai mais strictement rien à foutre. Je connais même pas les règles. Le peu que je sais est parfaitement incohérent. Par exemple, les points, c'est 15, 30, 40 jeux. Bon, bah, une fois que j'ai su ça, je suis retourné voir un match de foot. La première fois que j'ai vu un match de tennis, j'ai mis 2 sets avant de comprendre que le filet au milieu du terrain, bah, c'était fait exprès. Donc non, je m'en fous du tennis, mais je suis tombé sur un article de Closer et j'ai vu que les plus grandes stars s'y rendaient. Des joueurs du PSG, des chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Et à l'ouverture cette année, il y avait même la star internationale, et on le sait, grande passionnée de coup droit et de sport en général, l'immense Anne Romanoff. Mais qu'est faisait donc Anne Romanoff à Roland-Garros? Réponse A, le tennis est une passion. Réponse B, les hommes bien foutus sont une passion.
Réponse B.
C'est devenu hyper chic d'aller à Roland-Garros en plus. Maintenant, quand on te demande, t'as vu qui Roland-Garros? Avant, tu répondais, bah ouais, j'ai vu Federer, il est super fort. Maintenant, tu réponds, ah, j'ai vu Miss France 2017, elle est super fraîche. Donc, vous l'avez compris, si cet après-midi je vais à Roland-Garros, c'est pas pour mon amour du tennis, c'est tout simplement parce que, comme vous, Anne, je suis une star.
Ah bon, vous avez été invité, Ben H?
Mais tout à fait, ouais, j'ai été invité par mon père pour mon anniversaire. Bon, ok, j'ai aussi appelé le service VIP pour demander des places VIP. Ils m'ont répondu, vous êtes qui? J'ai répondu Ben H. Ils m'ont dit, qui ça? J'ai répété Ben H. Ils ont raccroché. Ok, je suis peut-être pas tout à fait une star. Ok, je suis pas une star du tout. Je n'aime pas trop le tennis. Mais je vais aller à Roland-Garros pour faire plaisir à ma copine, pour faire une photo pour Instagram. Et ok, je l'avoue, si je peux aussi croiser Miss France, ce serait le top.
Europe 1.
Ouais. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce best-of avec Jean-Philippe Vizini, Ben H, Christine Béroux et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner des produits de beauté Clarins d'une valeur de plus de 500 euros. Alors jouons à un autre jeu, devinez qui je suis.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
C'est du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi férié pour ce best-of avec Jean-Philippe Vizini, Ben H, Christine Béroux. C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Jean-Philippe?
Devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Romanoff.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités qui ont fêté leur anniversaire au mois de mai. Même après la fête des mères, Clarins continue de célébrer toutes les femmes et vous offre ses best-sellers pour être belle et bien dans sa peau. Aujourd'hui, vous pouvez gagner le double sérum essentiel de la peau, l'eau dynamisante, des huiles et les hydratants pour une valeur de 500€. Clarins Europe 1 rend la vie plus belle à toutes les femmes. Et on joue d'abord avec Nathalie. Bonjour Nathalie.
Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
Bonjour Nathalie.
Nathalie, vous avez 52 ans, vous êtes secrétaire médicale dans la Niort.
Oui, à Niort.
Oui, et vous êtes célibataire depuis un an et demi.
Oui.
Et vous avez perdu 10 kilos en 7 mois.
Oui.
Eh ben dis donc.
Bah donc c'est... la solution est bientôt là.
C'est le prélèvement à la source, hein. On est tous pareils. Hein.
En fait, j'étais au chômage, donc j'étais plutôt momomotus.
Mmh. Oui. Ah, puis depuis Thierry Beccaro, il a arrêté.
Ouais, voilà. Je me suis dit, au lieu de rester sur le canapé, je me suis dit, je vais aller marcher. Du coup, j'ai perdu du poids.
Bah, c'est vachement bien. Rien qu'en marchant.
Rien qu'en marchant, ouais. Tous les jours pendant 7 mois.
Vous écoutez l'émission tous les jours, Nathalie ?
Oui.
Même au travail ?
Non, actuellement, je ne travaille pas. Je reprends le travail le mois prochain. Ah. Mais je vous adore, quoi. Vous me donnez de la joie pour la journée.
Et là, récemment, vous êtes célibataire depuis un an et demi. Avant, vous étiez avec quelqu'un pendant combien de temps, Nathalie ?
Oh, pendant quelques mois. Donc voilà, ça n'a rien donné. Mais j'ai revu mon premier amour de 17 ans il y a 8 jours.
Ah.
Ça faisait 34 ans qu'on s'était pas vu.
Oh, et alors ?
Il a un peu vieilli, le gars.
Il a morflé ?
Non, pas trop. Et puis, il m'a dit que j'avais pas trop morflé non plus, donc c'était sympa.
Mais lui, il est libre ou pas ?
Il est libre, oui. Mais c'est un peu compliqué.
Pourquoi c'est compliqué ?
Parce qu'il a une femme, en fait. Donc,
il est libre dans sa tête.
Lui, il voit pas le problème, mais bon, il faut qu'il rentre tôt, quoi.
Quand même, une fois, il y a un mec qui m'a dit « Moi, je vais séparer, tout ça, je sais bien. Mais bon, c'est compliqué l'immobilier, on est dans le même appart. En fait, c'est comme une colocataire. »
Oui, puis comme on est encore marié, qu'elle le sait pas encore. De...
Pourquoi c'est compliqué, cette histoire, Nathalie ?
L'envie n'est pas là, quoi. Donc, mais c'était super sympa de se voir parce que on s'est revus, on a revu des photos. Ça m'a rassurée parce que je me suis dit, j'ai pas pris trop cher non plus.
Mais maintenant, il vous attire plus, quoi, en fait.
Non. Mais c'était super sympa parce qu'on s'est rappelé des choses qu'on a vécues ensemble, des amis, et ça fait du bien, quoi. C'est comme si la boucle était bouclée.
Et lui, là, vous lui plaisiez ou il voulait.
Je pense pas, non. C'est plus de l'amitié maintenant. Oui.
Ah ouais. Non, bah des fois ça évolue comme ça. Hein.
Ouais.
Donc c'était fausse piste alors.
Oui.
Donc vous êtes sur le marché, quoi.
Voilà, je suis sur le marché.
Vous avez une annonce à passer ?
Bah tout à 10 balles, sinon j'emballe.
Non, je laisse la vie faire. Je laisse la vie se dérouler.
Vous dites, vous savez pas laisser la vie faire.
Si, je laisse la vie faire.
Bah, vous nous parlez de ça tous les matins.
Pas du tout. Non. C'est un peu plus intéressant que parler de ma fille qui dort pas.
Okay, allez, faut pas l'énerver.
Bon, Nathalie, vous jouez avec qui ?
Oui. Christine.
Oui, maintenant que je vais me faire virer, donc c'était la dernière fois que je joue à ce jeu.
C'est le jubilé de Christine.
Alors, vous choisissez la liste 1, la liste 2 ?
La liste 2.
La liste 2.
D'accord.
Donc, ce sont des personnalités qui sont nées au mois de mai.
D'accord.
Vous êtes prête ?
Oui.
Attention, top chrono.
Alors, son mari était président, c'était Jacques. Il était président juste après Mitterrand. Et elle, c'était la femme.
Chirac.
Oui, c'est un Français star aux États-Unis avec le basket. Il a été en couple avec Eva Longoria.
Je passe.
Ouais, c'est la sœur de Michael, star de la pop.
Jeannette,
oui. Oui, c'est la fille de Johnny. Ouais, c'est la fille de Johnny Hallyday et de Vanessa Paradis.
Johnny Hallyday,
Pardon. C'est Cache Investigation. Elle fait peur à tout le patronat quand elle arrive. Elle dit bonjour, je peux vous parler. Tout le monde part en courant. Oui, c'est un comédien français. Il est en couple avec Agnès Jaoui. Il a une grosse gueule.
Oh là là, la fille de Johnny Hallyday, Vanessa Paradis, non
mais... C'est déjà
Vanessa Paradis et Johnny Hallyday. On a les photos de la...
Alors, vous n'avez pas été aidée par Christine, hein, Nathalie.
Désolée, Nathalie.
Alors, bon, trois bonnes réponses. C'était Tony Parker, que vous n'avez pas trouvé. Et c'était Lily Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp.
D'accord.
Trois bonnes réponses, Nathalie. On va voir comment Pierre se débrouille. Bonjour, Pierre.
Bonjour Anne, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour
Pierre. Vous avez 30 ans, vous êtes horticulteur en Bretagne, vous habitez à Plouvara, près de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor.
Tout à fait, c'est ça.
Et vous écoutez régulièrement l'émission, quel chroniqueur vous aimez bien ?
Moi j'aime beaucoup Christine parce que j'ai une petite fille qui a 17 mois et ses histoires me font beaucoup rire parce que c'est assez similaire.
Ouais, enfin un collectif.
Ouais, ouais, ça me fait toujours marrer, ouais.
En fait, c'est peut-être les enfants de Bretons qui ont un problème.
Faut arrêter le sous-chaîne. Hein.
Vous avez rencontré votre femme sur le marché de Saint-Brieuc. Elle faisait des courses sur le stand voisin.
Ouais, tout à fait. Elle achetait ses légumes chez mon oncle et du coup, bah, ça a matché comme ça. Et on s'est revus à l'extérieur et ça a fonctionné comme ça.
Et là, vous naviguez sur un voilier. Vous adorez pêcher en Bretagne ?
Moi, j'aime tout ce qui est, ouais, bah, comme beaucoup de Bretons, tout ce qui est course à la voile et navigation et suivre les départs de grandes courses à la voile. C'est une de mes activités que je pratique, ouais, tout à fait.
Et vous nous écoutez souvent ?
Ouais, le lundi, le mardi et autrement en podcast le reste de la semaine quand je suis au marché. Ouais.
Vous jouez avec qui, Pierre ?
Moi, je vais jouer avec Benache.
Alors, vous avez déjà joué il y a un mois avec Didier Porte et vous aviez perdu.
Ah, et c'était pas le bon cheval sur qui miser, ouais, tout à fait.
Là, aujourd'hui, vous avez choisi un poney. Hein, je vous préviens.
On va voir si on a plus de chance avec un poney. Ouais.
Ah, on va voir. Vous
Allez,
êtes
on
prêts
y croit.
Des personnalités nées au mois de mai. Et si vous en trouvez 4, vous gagnez les 500 euros de produits de beauté Clarins. Attention, top chrono.
C'est un humoriste qui met le paquet souvent des affiches et des slips.
Bigard.
Ouais, c'est ça. C'est un chanteur full sentimental.
Alain Souchon.
Oui, c'est une présentatrice de télé française qui présentait cet au programme le matin sur France 2. Et une émission de brocante aussi après-midi, non ?
Nathalie Guéry, ouais, Sophie Davant.
Ouais, c'est ça. Un tennisman serbe. Le tennisman serbe.
Djokovic.
Ouais, c'est ça. Une top modèle des années 90 plutôt, black.
Naomi Campbell.
Ouais, il était candidat à l'élection présidentielle, un petit peu bourré, un petit peu tout le temps.
Ah, la salle.
Ouais. Un acteur qui a joué James Bond.
Waouh.
Pierce Brosnan.
Voilà,
si
c'est vraiment parfait.
Bonne réponse, bravo, bravo Pierre.
On embrasse Jean Lassalle. Hein, qui nous est...
Mes amitiés à Jean Lassalle.
Bravo Pierre, si bonne réponse, vous étiez vraiment au taquet. Hein.
Merci beaucoup, c'est gentil.
Un cri de...
Et merci à Benache, c'est bien plus efficace.
Tout le mérite vous revient.
Un petit cri de joie, Pierre.
Il a bien fait le poney. Hein.
Europe 1 et Clarins vous offrent ses best-sellers pour être belle et bien dans sa peau. Le double sérum essentiel de la peau, l'eau dynamisante des huiles et laits hydratants. Ça fera plaisir à votre chérie. 500 euros de produits beauté. Clarins Europe 1 rend la vie plus belle pour toutes les femmes.
Merci beaucoup, merci à tous.
Désolée Nathalie.
Bravo.
C'est pas grave. L'important, c'est que je vous ai eu, j'ai participé.
Voilà, continuez à nous écouter.
Pardon Nathalie.
Et... Bah, alors, vous savez que Nathalie, si vous insistez un peu, Christine est capable de vous envoyer un cadeau.
Psychologiquement,
tellement...
c'est fragile.
Sachant qu'elle a gagné 200 euros.
Tu peux lui envoyer
casino.
Ton livre ou quelque
bien
chose
sûr.
Vous voulez mon livre ?
Ah oui, je veux bien son livre.
Ah, bah,
ah,
oui, il est très bien son livre. À la recherche du temps perdu sur Internet, je vous recommande, c'est très bien écrit.
Il est en rupture d'édition, ils n'en ont pas vendu un seul. Mais...
C'est pas vrai, il est sur Amazon.
Oui, il est dans toutes les bonnes librairies. Je vais vous l'envoyer, Nathalie.
On fait ça, Nathalie.
Je vous remercie. Merci beaucoup.
On vous embrasse, Nathalie. Continuez à nous écouter. Et les femmes de 52 ans, c'est les meilleures.
Ouais, c'est les meilleures.
Parce qu'à partir de 53, c'est plus terrible.
On vous embrasse. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Ouais.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission Best Of. On écoutera les meilleurs moments de l'émission avec Lara Fabian. Ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi férié pour cette émission Best Of avec Jean-Philippe Vizini, Ben H, Christine Bérou. Alors vous savez que c'est bientôt la saison des mariages et qui dit mariage dit enterrement de vie de garçon, de vie de jeune fille. Est-ce que vous avez déjà participé à ce genre d'événement ?
Ouais, bah j'en ai fait un justement, un enterrement de vie de garçon ce week-end justement.
Ah, vous avez fait quoi ?
J'ai beaucoup picolé à priori parce que je me souviens pas du reste.
Christine ?
Mais moi, j'ai jamais enterré ma vie de jeune fille et pourtant, ça fait un petit moment qu'elle est décédée. Voilà.
Et Jean-Philippe ?
Ah ben oui, nous, la semaine dernière, on a fait l'enterrement de vie de garçon d'un copain. On lui a pris une stripteaseuse, mais on n'avait pas trop de budget. On était un peu déçus. C'était ma belle-mère. Qu'on embrasse.
On va tout.
Mais qui a fait de son mieux.
Bah oui, j'imagine. J'espère que vous avez gardé des images.
Oui.
Elle est souple au moins.
Qu'on diffusera. Bon, ça va, on passe à autre chose alors. Qu'est-ce qui se passe maintenant?
Eh bien, on va écouter les meilleurs moments de l'émission avec Clara Fabian qu'on avait reçu le 5 mars pour son nouvel album Papillon. Vous avez un succès énorme justement à 28 ans, vous étiez la même année, Victoire de la musique, statue au musée Grévin, on vous reconnaît. Et ça a été dur à digérer cette célébrité brutale, parce que vous avez été connue, vous aviez 10 ans que vous essayiez d'être chanteuse, oui, mais vous avez été connue du jour au lendemain quand même.
Mais c'est très inattendu, effectivement on n'est pas toujours équipé psycho-émotionnellement pour comprendre ce que devient dans notre vie cet incroyable amour de la part des gens. Et ce qui peut déclencher parallèlement. Donc c'est vrai que ça prend un moment.
Aujourd'hui, vous vous sentez sereine.
Mais il fallait bien qu'à un moment donné, ça se passe.
Vous dites que vous avez fait tout un travail sur vous.
Tout un travail sur moi, mais principalement en lisant beaucoup de choses et en étant accompagnée par quelques femmes, des expertes ou des spécialistes, une en kototama, une en communication.
En quoi?
Le kototama, c'est de l'aïkido. C'est un art martial. Ou bien de la CNV, qui est de la communication non violente. Donc comment gérer tes relations autrement qu'avec...
Quand c'est énervant.
Voilà, avec une forme de conflit implicite, ouais. Et parfois très très sournois finalement. Et ça aide énormément dans les relations en général. Donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup travaillé.
T'entends Léa dans les bouchons, faut se calmer.
Mais c'est clair, mais ça commence par là. Ça commence par là, c'est très anodin, mais ça commence par là.
On arrête d'insulter tous les Vélib'.
Alors votre père, Lara Fabian, était chauffagiste, mais avant ça, elle était choriste et guitariste de Petula Clark.
Ouais.
Et pourquoi il a changé de carrière? C'était...
Hop, je crois que papa a pas eu la chance d'avoir un papa comme moi. Voilà, je crois qu'il a eu des parents qui ont plutôt encouragé ce qu'ils appelaient un vrai métier.
Et vous avez 5 ans, vous êtes dans la voiture avec votre père, vous entendez une chanteuse à radio et vous dites à votre père, je suis chanteuse, à 5 ans. Très, très sûre de vous.
En fait, pas du tout sûre de moi, c'est l'innocence d'un gamin qui, comme il dirait, moi je suis pompier ou je suis pâtissier. C'est un peu ça qui s'est passé. Alors je sais que papa, là il m'a recadré par contre, il m'a dit non, on ne dit pas ça, on dit je souhaite le devenir. Et ça, c'est quelque chose qui m'a accompagnée toute ma vie, parce que c'est un apprentissage, parce que c'est un très très long chemin.
Et vos parents vous ont beaucoup soutenu dans votre volonté. Ils vous ont acheté un piano, vous n'avez pas les moyens, ils vous ont inscrit au conservatoire. Ouais. Et vous avez eu une humiliation à 8 ans, on vous a pesé au conservatoire.
Oui, parce que je voulais danser moi aussi, puisque quand on rentre au conservatoire, c'est multidisciplinaire. Et donc il m'a pesé, fait trop grosse, elle a les pieds plats, personne ne va pouvoir soulever ça dehors.
Wow. À 8 ans,
la violence.
Ouais, c'était un peu rock'n'roll ce moment-là, et je l'ai jamais oublié forcément. Et donc je me suis dirigée vers les claquettes, parce que du coup,
et vous donc belge, québécoise, italienne. Alors
on s'y retrouve plus. Hein. Même le psy s'y retrouve pas. Ça fait 20 ans qu'il essaye.
Vous êtes capable de raconter des histoires belges avec l'accent québécois?
Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est un exercice que ma fille me fait faire souvent. Maman parle en français avec l'accent italien.
Ah oui.
C'est un exercice.
Et comment vous parlez en français avec l'accent italien?
Eh ben, il faut essayer de rompre la cadence
et
tenter de le faire comme ça, non? Avec toujours comme une esparse dans la voix, non?
Ah ouais,
c'est bien.
Dirait Monica Bellucci.
Oh là là, vous êtes trop douée. Et alors, vous pensez que Lara Fabian, si à votre époque il y avait eu The Voice, Nouvelle Star, vous auriez fait tout ça?
Alors, est-ce que j'aurais eu le courage? Parce que c'est un véritable acte de foi quand même, monter sur une scène devant des millions de gens.
Bah, vous avez fait l'Eurovision quand même.
C'est pas pareil, on n'est pas jugé.
Vous avez fait l'Eurovision la même année que Céline Dion.
Ouais. Quand Céline a gagné pour. Ouais.
Partez pas.
Non, stop.
Pour la Suisse, moi, je faisais...
Je rappelle que c'est Léa Lando qui a chanté pas Lara Fabian. Les gens avaient deviné, mais je précise quand même.
Les ventes s'effondrent, sinon. Non,
ouais. Elle pour la Suisse et vous le Luxembourg.
Exactement.
Mais vous êtes arrivée quatrième, quoi. Ouais, ouais. Moi, je me souviens très bien de
J'avais 18 ans, c'était une belle le 30 avril 1988. C'était un moment incroyable de ma vie. Ouais.
Lara Fabian, votre tessiture vocale est de 2 octaves et 7 notes. Chez Jean Normaux, c'est quoi la moyenne?
Alors, 2 octaves et 7 notes en exercice. Ouais. Mais ce n'est pas la même chose quand on fait de l'exercice. C'est comme lorsqu'on fait des gammes que lorsqu'on chante. Donc,
comment on fait pour apprendre à chanter quand on ne sait pas chanter? Je dis ça pour Jean-Philippe.
On le fait comme on s'amuse. On le fait comme on apprend.
Ça fait 20 ans que je fais ça. Je peux vous dire que ça ne marche pas tellement.
À mon avis, on le fait comme on apprend à danser quand on n'est pas danseur, comme on apprend à peindre quand on n'est pas peintre, avec beaucoup de
l'alcool, donc.
Mais c'est vrai, moi, je chante juste seulement quand je suis bourré.
Tu crois que tu chantes juste
Alors, chantez-nous. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission Best of avec notre invité Lara Fabian. Veut nous parler de son album Papillon, sorti le 5 mars, et sa tournée 2019-2020. 50 World Tour, octobre 3 dates en Russie, novembre 2 dates à Bucarest, décembre 1 date à Sofia, 8 janvier 2020 Roubaix, 9 janvier Bruxelles, Metz. Et on vous donne la suite dans quelques instants.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 pour cette émission best-of de ce jeudi férié avec Jean-Philippe Lusini, Ben H, Christine Biroulou. Et on va réécouter les meilleurs moments de notre émission avec notre invitée Lara Fabian. Vous avez une grande fan dans ce studio, mais vraiment, c'est Léa Landau, elle nous bassine avec vous depuis 600 ans.
Mais ça fait des années, il faut inviter Lara Fabian, elle vous adore.
C'est vrai, Lara Fabian. Gentil. Donc j'ai plein de questions à vous poser. Donc on l'a dit, votre nouvel album s'appelle Papillon, et ça vous va bien, hein, quand surtout qu'à ma gauche j'ai un tétard et à ma droite un hyène.
Moi je préfère un tétard.
C'est vrai.
Pourquoi tu dis ça Jean-Philippe, c'est pas un hyène, il est gentil.
Une hyène. C'est une femelle la hyène.
Ouais, mais je te l'ai mis au masculin pour pas te vexer.
C'est quoi le masculin de la hyène?
Le yin.
N'importe quoi. Donc cet album qui parle énormément d'amour, comme la plupart de vos albums, donc Je suis à toi par amour, qui est ma chanson préférée, Je ne t'aime plus, Sans ton amour, bref, l'amour est très présent dans votre vie, Lara Fabian, contrairement à celle de Anne et moi. Donc j'ai décidé de vous poser des questions sur ce sujet que vous connaissez bien et que nous connaissons peu. Voici l'interview en toute intimité de Lara Fabian, comme le titre d'un de vos albums, qui est l'un de mes préférés. Lara Fabian, donc déjà, on vous a déjà dit, Lara, tu es à Crocarte.
Non, on m'a jamais dit je suis à Crocarte, mais c'est très mignon.
C'est mignon, ouais. Parce que c'est votre vrai nom,
Crocarte. Oui, c'est le nom de mon papa.
Et alors, pourquoi vous avez changé?
C'est un peu plus compliqué, je pense, Crocarte, pour que... la musique. Non, ouais, je sais pas, ça se dit bien.
Ouais, mais Scrabble, c'est plus de Pont de Fabian. Hein. C'est beaucoup plus. Beaucoup plus.
Alors, vous êtes vraiment le fruit de l'amour avec un grand A, parce que alors, donc, votre papa a annulé son mariage avec une Miss Belgique pour votre maman à 19 jours de la date.
C'est exact.
Bon, moi, en amour, je crois plus au coup de foudre, mais au coup de poudre d'escamprette. Ça va chercher le pain, ça revient pas. Résultat, bah, tu dis adieu à ton petit-déj. Et vous, Lara Fabian, vous croyez au coup de foudre toujours?
J'ai pris suffisamment de coups pour ne plus vouloir même celui-là.
Ouais.
Mais oui, je pense que ça existe. Oui, je pense que c'est possible de voir quelqu'un, d'avoir une connexion immédiate. Après, ce qu'elle devient, c'est autre chose.
Le temps d'une chronique sur une radio.
Par exemple.
Alors, vous faites toujours la transmission d'énergie et d'amour à travers les pouces de votre équipe avant de montrer sur scène, parce que Anne, c'est pas le pouce qu'elle nous tend avant une émission de cette match.
Faut changer de doigt, Anne.
Ah, c'est ça.
La communication non violente.
Non, changer de doigt.
Mais vous faites toujours ça, ouais.
Oui, je fais encore ça. Oui, je l'ai fait encore il y a 2 jours lors du lancement à Montréal.
Alors, puisqu'on est dans une interview en toute intimité, est-ce que dans l'intensité, on garde de plus forts souvenirs de ses ex, Lara Fabian, ou des duos incroyables que vous avez formés, notamment avec Johnny et Morane?
Des duos incroyables. Ah, des duos incroyables.
Ouais.
Ouais, absolument. Mais avec Johnny en particulier au stade, ça c'est peut-être un des plus grands moments de ma vie, et d'artiste et de femme. Mm-hmm. Et avec Morane, c'est quelque chose qui remonte à tellement loin. Moi, j'étais liée à Morane intrinsèquement bien avant. Ouais, cette chanson-là a cimenté quelque chose. Et c'est toujours quelqu'un qui est dans ma vie, qui a été dans ma vie et qui sera toujours dans ma vie.
D'ailleurs, vous êtes fille unique. C'est un peu comme
une grande sœur,
ouais, Morane.
D'une certaine façon.
Alors, je t'aime reste toujours votre titre le plus connu du public du monde entier. Comme quoi, l'amour. Hein. Vous êtes sans doute la personne qui l'a prononcé le plus de fois au monde, peut-être.
C'est vrai.
Si je ne compte pas Ben H qui le dit à toutes ses dates Tinder...
poils.
Mais non, toi, pas du tout.
Bah,
une sur deux. Une sur... Un peu de respect.
Mais au pif ou par choix?
Ouais, par choix, toujours.
Alors, Lara Fabian, c'est à moi à présent, c'est moi qui vais vous livrer quelque chose de mon intimité pour vous poser ma dernière question. Quand j'avais une vingtaine d'années, c'est-à-dire il y a 20 ans déjà, on avait un jeu entre amis. On avait tous établi une liste de 4 personnalités avec lesquelles on aurait le droit de coucher, si l'occasion se présentait sans que notre petite amie de l'époque n'ait son mot à dire. 2 personnes du sexe opposé, 2 personnes du même sexe, histoire d'avoir plus d'ouverture, hein, et de faire preuve aussi de plus d'ouverture. Alors 4 noms, parce que pour chaque, on avait le droit à une vedette internationale et une vedette française. En ce qui me concerne, pour les hommes, j'avais mis Matthew McConaughey en star internationale, et le français, je m'en souviens plus, ça devait être un mauvais coup. Et pour les femmes, je m'en souviens très bien, j'avais écrit Kate Winslet pour l'international et Lara Fabian pour la française. C'est une vraie révélation que je livre ce midi, d'où ma question, alors, oui ou non?
Mais elle n'est pas française.
Mais vous êtes pas mal du tout, puis j'ai juré qu'avant de mourir, je ne mourrais pas bête.
Ah, oh,
je veux être là.
Non.
Je veux être là.
Mais pour vous prêter à ce jeu, quels seraient les 4 noms que vous donneriez, Lara Fabian? Bon, moi, pour la française, du coup.
C'est fait.
C'est fait.
Ben, je pense qu'on se disputerait Kate Winslet, toutes les deux.
Ah, c'est vrai?
Ah, ouais, vraiment.
Ouais, elle est magnifique. Mais vous avez quelque chose de Kate Winslet?
Ah bon?
Ouais.
On la sensualité. On vous laisse ou ça?
Non, c'est vrai, vous avez exactement la même sensualité. C'est pour ça que c'était pour moi à peu près équivalent.
Ah, attends, moi j'adore. Ouais.
Et comme homme?
Et pour les hommes?
Ça y est, c'est parti. Joker.
Joker. Parce que Ben Affleck, il ressemble pas trop à DiCaprio.
Europe 1. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission Best of de ce jeudi férié. On écoutera les meilleurs noms de l'émission avec Michel Onfray, le philosophe et l'écrivain.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Jean-Philippe Busoni, Ben H, Christine Bérou. C'est une ambition best-of. Alors, on a écouté Lara Fabian. Tout à l'heure, on entendra Isabelle Nanty. Maintenant, je vous propose d'élever un peu le débat avec les meilleurs moments de l'émission.
Et du coup,
avec...
je sors, moi.
Non, c'est pas resté. Avec Michel Onfray, qui était passé nous voir le 25 janvier. On écoute. Votre livre « Sagesse, savoir vivre au pied d'un volcan », c'est qui exactement votre Vésuve à vous?
C'est le monde comme il va, c'est aussi la France qui s'effondre, l'Europe d'une certaine manière qui s'effondre également, et c'était une métaphore. J'ai failli utiliser le Titanic, mais comme je voulais ne parler que des Romains, je me suis dit effectivement le Titanic chez les Romains ça pouvait pas marcher.
Alors vous entrez régulièrement en éruption, Michel Onfray, vous n'avez pas atteint la sagesse ou vous n'avez jamais été sage?
Ah, je crois que la sagesse n'exclut pas la colère, au contraire. Je crois que la colère peut être maîtrisée. Il y a des colères rationnelles, vous savez, comme des acteurs qui jouent la colère, et puis on leur dit, on arrête, quoi, on coupe, et voilà, la colère est finie, puis on redémarre. Donc je crois que la colère est une méthode, et qu'on peut être sage et déchaîner la colère quand elle est nécessaire, et puis l'arrêter quand c'est nécessaire aussi. La sagesse, c'est la maîtrise.
Là, vous n'allez pas vous mettre en colère ce matin?
Ça dépend ce que vous allez me dire.
Oh là là. Alors, c'est le 3e volet de votre brève encyclopédie du monde, 500 pages à chaque fois. Qu'est-ce que ça donne quand vous décidez de développer? Parce que brève encyclopédie, 500 pages.
Eh bien, ça va donner 6 volumes, parce que je vais développer sur 6 volumes. Et encore, quand je suis parti sur Cosmos, là, je m'étais dit 3 volumes suffiront. Là, après 2, enfin j'ai décidé après 2, mais j'ai décidé après 3 qu'il y en aurait 6. Peut-être qu'après 6, je déciderai qu'il y en aura 12, on verra.
Vous écrivez tout le temps, Michel Onfray?
Oui, tout le temps, oui.
Vous voulez pas écrire des chroniques pour des gens qui n'auraient pas le temps d'écrire dans le temps, leur travail, non?
Ça, je pourrais très vite.
Vous partez jamais en vacances, vous dites? Pas de dîner entre amis, pas
non,
de vacances?
Enfin, jamais de dîner. D'abord, j'habite en province, j'habite en Normandie, donc il n'y a pas de dîner mondain. Enfin, il y a des dîners mondains, hein. J'ai les sous-préfectures ou les préfectures, singe Paris aussi.
Donc vous n'avez pas eu la grippe, vous non plus? Alors.
Vous n'entendez pas ma voix, là. D'abord, je suis vacciné, mais ensuite, j'ai chopé dans une saloperie qui traîne. Il y a 2 jours, j'ai failli franchement perdre ma voix. Là, j'ai pris de la cortisone pour être avec vous.
Oh, c'est gentil.
Je vous en prie.
Et ça vous donne une voix sexy.
Oh, bah d'accord.
Mais qu'est-ce que
et encore, on ne m'avait pas rencontré hier.
Léa, fin, pardonnez-la.
Bah, enfin, dis donc.
Que Michel Onfray, je me rappelle que la dernière fois que vous êtes venu dans l'émission, c'est très bien passé. Et à un moment, vous avez râlé contre les gens en trottinette, ce qui était totalement anodin.
Oui, bah oui.
Et c'est devenu un buzz. Bah oui. Ça a été repris par le site de l'Express. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, ce mec, tout ce qu'il dit, ça déclenche les trucs, quoi. Même parce que râler contre les gens en trottinette, il n'y avait rien
d'extraordinaire.
De transgressif dans
ces
propos.
Si, parce qu'en fait, vous savez, la sociologie dit que tout ce que vous faites vous signale qui vous êtes. Et effectivement, Un ouvrier cégétiste de Longwy, c'est peu probable qu'il roule en trottinette.
Vous allez remettre ça, attention. On va voir la suite du trottinette
gate. Moi, ça ne me gêne pas de taper sur les clous qui sont déjà partiellement enfoncés. Et donc, il y a effectivement une sociologie du trottinetteur, si l'on veut, ou du patineur. C'est une sociologie du bobo. Ce sont des gens qui défendent la pensée de Giscard d'Estaing, mais qui ne veulent pas être de droite. Donc, ils prétendent qu'ils sont de gauche. Donc, effectivement, ils défendent Macron, ou ils défendaient jadis Hollande. Ils trouvent qu'il ne faut pas fumer, parce que fumer, c'est dangereux, c'est toxique, mais ils fument des pétards. Etc, etc. Enfin, il y a une espèce de... Il y a une pensée qui va avec la trottinette.
Michel Onfray, comment vous réagissez quand même quand vous déclenchez des fois des haines? Comment vous faites? Ça glisse sur vous? Vous faites appel aux philosophes justement pour être impassible? Comment ça se passe?
Et alors, il faudrait que je vous parle dans le temps pour ça. Parce qu'effectivement, il y a eu une époque où ça m'atteignait. Parce que je trouvais que c'était très injuste. Mais oui, on dit, mais j'ai pas dit ça, j'ai pas fait ça, je l'ai pas dit comme
on
ça.
On extrayait une phrase de vos propos.
Absolument, mais bien sûr. Mais à chaque fois, il y a des endroits où je sais très bien que quand j'y vais, on va me ressortir à nouveau l'article paru dans le Figaro il y a 5 ans et la phrase très précise dans laquelle il y a le mot qui ne convient pas. Donc j'ai l'habitude de ces choses-là. Donc au départ, on se dit, mais c'est pas juste, c'est pas normal. Enfin, je vais m'expliquer. Et puis en fait, on comprend que c'est pas du tout ça le problème, que les gens cherchent une occasion de me taper dessus et que globalement, tout fait l'affaire. Donc une fois c'est la trottinette, une fois c'est le peuple old school, c'est, enfin voilà, on crée des polémiques sur ce genre de choses. Et puis il y a cette belle phrase de Nietzsche que tout le monde utilise mais que je trouve très efficace, il dit « ce qui ne me tue pas me fortifie ». Il y a un moment donné où on en a tellement pris dans la figure, et plus que ça, je veux dire, bon, que je sois un sale type méchant, c'est une chose, mais quand on dit après que je suis antisémite, quand on dit que je suis compagnon de route de Daesh, c'est quand même plus violent, c'est quand même... des choses dont on se dit qu'est-ce que ça va laisser comme trace, quoi. Les gens qui nous aiment disent mais j'ai entendu ça, c'est pas vrai. Enfin, je dis mais non, c'est évidemment pas vrai, j'ai pas dit ça. Tu justifies le terrorisme? Je dis non. J'ai dit mais nous récoltons nationalement ce que nous avons semé internationalement. Oui, mais ça veut dire, je dis, mais j'ai jamais défendu le terrorisme. Je fais un travail de philosophe qui consiste à expliquer. Le problème, c'est pas de dire c'est pas bien le terrorisme, ça tout le monde peut le faire. Le travail du philosophe, c'est la généalogie. D'où ça vient? Alors évidemment, au départ, les polémiques blessent. Par la suite, on se dit mais non, si on fait vraiment un travail de philosophe et qu'on pose la question du pourquoi ça marche comme ça, comment ça s'est passé, eh bien vous déclenchez des haines, des hystéries, vous dites en fait c'est bon signe. Et je vais pas dire que d'une certaine manière, plus il y a de polémiques, plus je me dis c'est bon, je suis dans le bon sens. Mais je veux dire que je suis passé d'un moment où ça m'affectait, il y a une vingtaine d'années, à un moment aujourd'hui où je me dis peu importe ce que de toute façon il sera dit sur moi. Alors bon, les campagnes, les calomnies, tout ça, voilà, on se dit, on ouvre le parapluie, la pluie va bien s'arrêter de tomber, et puis la vie continue.
On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission Best of avec notre invité Michel Onfray, ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi férié pour cette émission Best of. On continue d'écouter les meilleurs moments de l'émission avec notre invité Michel Onfray qui était passé nous voir le 25 janvier pour nous parler de son livre Sagesse, savoir vivre au pied d'un volcan. Vous dites que ce livre est un hommage à un de vos professeurs de philosophie qui les a beaucoup marqués, que c'était votre maître, Lucien Gerfagnon. Vous pouvez nous en parler?
Oui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand je suis arrivé à la fac, un peu perdu. Je veux dire, j'ai eu une enfance un peu problématique, des coups, un orphelinat, enfin bon, voilà. Et je découvre Lucien Gerfagnon qui devient mon maître. J'ai 17 ans, ça me change la vie de voir un homme qui me dit qu'on peut être moral sans passer par le christianisme. Il m'enseigne Lucrèce, qui est un philosophe romain, sur lequel on sait peu de choses, mais qui a écrit un grand poème qui s'appelle « De la nature des choses ». Et « De la nature des choses » nous parle du désir, du plaisir, de la morale, d'autrui, des femmes, de l'amour, de l'amitié, etc. Et de manière matérialiste. Lucrèce nous dit « Il n'y a que de la matière ». Et d'un seul coup, moi qui ai été fabriqué par les prêtres et par le catéchisme, qui ne croit pas en Dieu et qui se dit mais comment est-ce que je peux être moral, je découvre qu'on peut être moral sans croire en Dieu.
Quand vous parlez de vos parents, vous dites que votre père était un sage, quelque oui, part, et oui. Votre mère, ça a été très compliqué. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment votre père, qui était tellement formidable, vous le décrivez, a laissé votre mère vous maltraiter comme ça, sans rien faire.
Oh, ça, j'en parlerai le temps venu. Mon père n'est plus là, ma mère est encore là, et je dis des choses que je ne devrais même pas dire. Je m'étais proposé de dire ça beaucoup plus tard. Mais c'est difficile d'arrêter la violence de quelqu'un. C'est difficile. Et c'est même pas difficile, c'est impossible. Donc soit vous entrez dans un conflit et vous ajoutez de la violence à la violence, et ça marche pas, vous jetez de l'huile sur le feu. Soit effectivement, ben, vous attendez que ça se passe et puis vous passez votre vie à attendre que ça se passe parce que rien n'est possible devant quelqu'un qui se comporte comme ça. Alors après, ça se calme parce que vous avez les moyens de répondre. Donc effectivement, les enfants battus cessent d'être battus quand ils ne sont plus des enfants, quand ils cessent d'être des enfants. Puis après, il y a tout un mécanisme de défense. Questionnez ma mère, elle vous dira qu'elle m'a évidemment jamais frappé, qu'elle m'a jamais mis à l'orphelinat, mais dans une école où on fait des bonnes études, qu'elle m'a pas foutu à la porte quand j'avais 17 ans et que je suis parti à ce moment-là, que j'ai payé mes études moi-même, etc. Elle me dit partout, mais vous savez, il a un doctorat, c'est quand même bac plus 8, hein, les 8 années d'université, je me suis quand même saigné aux 4 veines pour lui payer des études. Je dis, mais c'est pas vrai, je suis parti à l'âge de 17 ans. Puis par le savoir de Lucien Gerfagnon. Donc ce sont des maîtres qui m'ont construit. Et j'ai essayé par la suite, en créant l'Université Populaire,
de transmettre à nouveau.
Voilà, de rendre ce que j'avais reçu.
Vous avez une très belle relation avec votre père, parce que vous l'avez, pour ses 80 ans, vous l'avez amené au pôle Nord. C'était une promesse que vous lui avez faite des années avant.
Oui, on était dans un champ, on plantait des pommes de terre. Mon père avait un petit bout de jardin dans un champ et il y avait une alouette qui grimpait, là, qui passait. Et puis un avion qui traversait le ciel. Il y a toujours une ligne sur ce champ-là. Et je lui dis, mais si tu avais un billet d'avion gratuit, où est-ce que tu irais? Vraiment, c'était très improbable à l'époque.
Vous aviez quel âge?
On crevait la faim, j'avais 8 ans. Mon père avait un salaire d'ouvrier agricole, ma mère un peu d'heures de ménage. Je vous assure que les gilets jaunes, c'était aussi à la maison. Et donc mon père me dit, ah, je sais pas, peut-être au pôle Nord. J'ai dit, mais pourquoi? Et mon père me dit, bah, comme ça. Puis c'était du genre, bon, maintenant, allez, on se remet aux patates, quoi. On a autre chose à faire. Et un jour, je lui dis, mais tu sais, il avait fait un problème coronarien pour ses 60 ans. D'ailleurs, l'âge que j'ai. Et à l'hôpital, on se retrouve, et puis il y a des longs silences. Et à un moment donné, je lui dis, tu sais, un jour, je t'ai posé cette question. Te souviens-tu de la réponse que tu m'avais faite? Il me dit, ah oui, j'avais dû te dire le pôle Nord. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, je sais pas, comme ça. Et comme j'avais un vieux papa, je dirais, quand je suis né, il avait 35 ans, je crois, et que longtemps on m'a dit, ah, c'est ton grand-père. Je dis, bah non, c'est mon père. Donc j'ai toujours eu peur qu'il parte tôt. Et en fait, à ses 80 ans, je lui dis, écoute, tu sais, cette histoire du pôle Nord dans le champ, si tu veux, on le fait, je t'emmène au pôle Nord. Et donc on est parti au pôle Nord, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle L'esthétique du pôle Nord. Voilà. Et donc je fais des conférences un peu partout, le Japon, l'Australie, l'Amérique du Sud, etc. Et un jour je me suis dit, on me téléphonera en me disant, voilà, votre père est mort. Et c'est évident. Et puis j'habitais à 15 km de l'endroit où il habitait, donc je me dis, mais même il pourrait mourir alors que... Et en fait, un dîner avec des amis, le soir, mon père est là, et à minuit 20 très précisément, je le reconduis chez lui à 100 mètres, et on grimpe la place du village, il me dit, ah, il faut que je me mouche, alors il sort son grand mouchoir. Je lui tenais le bras, il n'avait pas besoin que je lui tienne le bras, mais je regarde le ciel, mon père m'avait parlé des étoiles, de l'étoile polaire, il me disait la première levée, la dernière couchée, elle indique toujours le nord. C'était une leçon de cosmologie, mais en même temps une leçon de philosophie. Et je ne vois pas notre étoile polaire, et je dis, on ne verra pas notre étoile polaire ce soir, et mon père me dit, non, ce soir le ciel est couvert et il est mort, dans mes bras, d'un seul coup. Il restait debout, comme un chêne foudroyé, c'est-à-dire qu'il n'est pas tombé. C'est moi qui l'ai levé, porté, allongé. Et à ce moment-là, il y a une espèce de transmission. Je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas à l'âme immatérielle, je ne crois pas à la vie après la mort, mais quelque chose s'est passé au moment de sa mort, j'ai hérité. Pas grand-chose, hein, je dirais, après ça, le notaire m'a envoyé un chèque de 43 euros que j'ai jamais touché, mais j'ai hérité de sa force. Et je me suis dit, maintenant, il faut être à la hauteur de cette force. Et j'ai démarré cette brève encyclopédie du monde, en essayant de raconter ce qui s'était passé dans la transmission, à cette heure-là, à ce moment-là, de cette force dont j'avais hérité, en me disant, maintenant, j'ai pas des droits, j'ai le devoir de la porter et de la partager, cette force. Donc j'ai écrit Cosmos, puis Décadence, puis Sagesse. Et d'une certaine manière, Sagesse, c'est un portrait en creux de ce qu'était mon père. C'était un philosophe qui s'ignorait, mon père, mais c'était un Romain qui n'avait jamais lu aucun philosophe romain.
Europe 1. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission Best Of avec Jean-Philippe Bizzini, Ben H, Christine Bérou et notre invitée qui sera Isabelle Nanty.
C'est génial.
Anne Romanoff sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi férié avec Jean-Philippe Bizzini, Ben H, Christine Bérou. Et on va écouter maintenant les meilleurs moments de notre émission avec Isabelle Nanty, la comédienne et metteur en scène qui était passée nous voir le 23 avril pour nous parler de la pièce L'Hôtel du Libre-Échange qu'elle met en scène à la Comédie Française. On écoute. Alors vous disiez, Isabelle Nanty, qu'on s'est connus très jeune dans les cours de théâtre, c'est vrai, mais moi je me souviens de vous aussi.
Vous étiez chez Rémi Chenier aussi?
Oui.
Ah, je l'adore, je le vois toujours moi.
C'est vrai?
Ah, je l'adore Rémi.
Et moi, je me souviens de vous sur scène, Isabelle Nanty, dans les cours de théâtre.
Vous étiez d'un naturel incroyable.
Ah oui, mais je m'en rendais pas compte.
Vous jouiez pas du tout.
Ah bon, c'est
non
vrai.
Non, mais c'était très alors... très naturel, c'était ah saisissant.
C'est toute ça la force.
Alors
du
que
jeu
j'ai l'impression toujours de lutter contre, enfin de faire un effort pour ça.
Alors vous racontez que vous avez raté deux fois le conservatoire et deux fois la rue Blanche.
Deux fois l'école de Nanterre.
Deux fois. Moi j'ai raté trois fois la rue Blanche.
Ah bravo.
Elle me bat. Mais moi, je n'ai passé qu'une fois le conservatoire, mais j'ai eu tellement de chagrin que j'ai cru mourir.
Ah ouais, ouais. Et puis à l'époque, car on peut dire comme ça...
Il y avait une époque...
Eh ben oui, il y a eu une époque où l'institution était pesante. Ouais, et si l'institution ne voulait pas de vous, c'est que... En tout cas, moi, ça m'a fait ça. Hein.
Oui, on avait l'impression qu'on était foutus.
Ah ouais,
on
n'arriverait pas à être actrice. Et puis surtout qu'on était nuls. Ouais. Et donc, c'est grâce aux gens qui nous ont fait travailler. Ou qui... C'est pour ça que quand je parle d'Anne, j'ai beaucoup d'admiration. Parce que déjà extrêmement brillante et drôle... Mais c'est vrai que les rencontres, les gens qui nous tendent la main et tout ça, c'est tout ça qui fait le chemin. Et
vous vous dites que c'est Jacques Weber qui vous a donné confiance, Isabelle Nanty ?
C'est, il y a Huster, oui. Il y a Weber, oui, parce que Weber, il m'a offert de faire ma première mise en scène.
À Nice ?
À Nice.
Il vous a donné une petite salle, il vous a dit vas-y.
Alors que je ne savais même pas que j'aimerais ça ou que si éventuellement j'étais faite pour ça ou pas.
C'était la mise en scène de quoi ?
Alors, c'était une maison de poupée d'Ibsen. Mmh. Et avec Sandrine Dumas, Hervé Brio, Antoine Duléry, voilà.
Ouais, donc c'était une grosse mise en scène pour une première mise en scène.
Ouais, c'était dans la petite salle à Nice. Mmh. Donc, on était protégés par cette appellation petite salle. Mais bon, c'est vrai que toutes les premières fois sont mémorables, quoi. Enfin,
et alors après,
et j'avais comme costumière Virginie Viard. Ah. Ça vous dit quelque chose ?
Non.
Bah c'est la jeune dame qui reprend la suite de Karl Lagerfeld chez Chanel.
Oh, ma chère.
Vous
elle était déjà extrêmement douée et très Chanel. Enfin, très comme ça, très.
Ouais, vous avez un petit penchant haute couture.
Eh ben oui, en fait. Vous faites constater ça. Ouais.
Alors. Si j'avais su, j'aurais mis une cravate.
Bah et moi, je suis arrivée, je suis venue comme ça, pas pour en disant oh je vais m'habiller des contracts parce que c'est eux. Non, je suis comme ça. Je suis même assez plutôt bien habillée par rapport à d'habitude.
Donc on explique au plus que vous avez un châle
et un pull assez ample, voilà. Mais joli.
Oui, ça
épaules.
C'est pour cacher le gras.
Il faut dire la vérité.
Votre père était marchand de bois, Isabelle Nanty. Vous dites que c'était quelqu'un de littéraire, distrait, fantaisiste. Et votre mère était norvégienne. Elle vous a donné une éducation protestante. Elle vous répétait tout le temps, sois toi-même.
Ouais. C'est mystérieux. Hein. Et je me surprends à dire ça à ma fille des fois. Et je me rappelle, en le disant, je dis, mais ça veut rien. Enfin, pour un jeune, on ne sait pas ce que c'est qu'être soi-même. On le sait bien plus tard.
Et vous dites que
bien plus tard.
Vous avez essayé d'être plusieurs vous-même, en fait.
Ouais.
Et c'est ce qui vous a permis d'être vous-même.
Voilà. C'est en traversant les autres que... Et aussi, dans les rencontres, hein, on se découvre. Et c'est vraiment quand même assez génial, comme il y a des gens qui vous font... qui vous révèle à vous-même, des gens avec qui vous vous sentez absolument libre ou même juste regarder tel que vous devez être révélé, en fait. Et c'est ce qui me passionne, là, maintenant. Et du coup, la mise en scène, pour moi, maintenant, c'est quasiment juste regarder.
Vous dites que...
Et de laisser faire. Oui, parce que je pense que...
On guide quand même quand on est metteur en scène.
Oui, bien sûr, mais bon, on ne se rend pas compte de ça.
Vous dites que vous étiez pleine de fantaisie quand vous étiez petite, Isabelle Nanty. Vous dites, je ne m'ennuyais jamais, j'imaginais des jeux, je m'inventais des vies, je jouais à la dame, j'avais des sacs, des clés, une voiture, plein d'enfants. D'autres fois, j'étais une épouse attendant inlassablement mon mari qui devait rentrer de la guerre. Mm. C'est un peu spécial quand même. Comme...
Bah oui, mais je suis née à Verdun, hein, n'oublions pas. Donc l'histoire, on était quand même empreint de cette histoire-là. Ouais, j'attendais mon mari. Et puis je trouvais qu'un mari, ça venait vous chercher. Ça venait vous chercher au travail, ça venait vous chercher pour vous emmener faire des courses.
Alors vous
j'étais très classique dans ma vision de la femme.
Et vous dites que la lourdeur est venue vite vers 13-14 ans. En 3 mois, vous êtes passée de petite fille toute mignonne à quelque chose de difforme. Mmh. J'avais un tour de poitrine anormal, je n'étais pas prévenue. Mmh. Je n'ai pas su quoi faire de ce corps qui changeait. J'avais l'impression de me transformer en Hulk. L'enfance dure 10 ans et puis tout d'un coup, on attrape ce corps qui sera votre compagnon de route pendant toute la vie. Mmh. C'est violent quand même de dire ça.
Oui, c'est violent. Vous l'avez... Je suis un peu trash. Hein.
Ouais. Mais vous l'avez vécu comme quelque chose de si violent ?
Bah, je continue. Enfin, sauf que maintenant, je m'en fous. Mais
Vous dites que votre corps ne correspond pas à ce que vous êtes à l'intérieur ? C'est
non.
Ça ? C'est-à-dire, vous êtes quoi à l'intérieur ?
Ben, je pense que je suis... Je suis grande, noire et je suis chanteuse de blues.
Ah ouais.
Ah oui, alors là, évidemment.
Ah bah évidemment, là, il y a un problème.
Il faut se projeter un peu, ouais. Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission Best Of avec notre invitée Isabelle Nanty.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi férié avec Jean-Philippe Vizini, ouais, Ben H, Christine Béroux et notre invité. On écoute les meilleurs moments de l'émission avec Isabelle Nanty qui fait actuellement la mise en scène de la pièce L'Hôtel du Libre-Échange à la Comédie Française. On écoute. Vous dites des choses dures sur vous, Isabelle Nanty. En même temps, vous accumulez les succès quand même. Meilleur jeune espoir féminin, Tati Daniel. Les visiteurs, des millions de... Ah, Fabuleux destin d'Amélie Poulain. Fais pas ci, fais pas ça. Les Tuches, les profs 1, les profs 2, les Tuches 2, les profs 2. Munch, les Tuches 3.
Munch 3.
Oui.
Les Tuches font du ski.
Crunch, lunch, brunch. Flunch.
Et en 2007, vous dites, j'ai mis trop de temps à... Alors, il y avait en moi des audaces de la sauvagerie qui ont été plombées. J'ai mis trop de temps à comprendre. J'ai travaillé dessus trop tard. Le constat que je fais aujourd'hui n'est pas sombre. J'ai raté ma vie, mais je l'ai plutôt bien raté. Mais non, vous n'avez pas raté votre vie, Isabelle.
On ne peut pas tout réussir, en tout cas.
Mais c'est comme, à chaque fois qu'on regarde un film avec vous, c'est vous qu'on retient. Moi, pour moi, Amélie Poulain, c'est la réplique 20 sur 20, 20 000 fois. Je ne sais plus c'est quoi. Vive la France, ah bah bravo. Pour moi, c'est ça, Amélie Poulain, c'est vous, en fait.
Ah,
en
c'est
vérité.
Gentil.
Mais bah,
c'est gentil pour André Totou. Hein.
Bah, non, mais je ne suis pas
exprès. Bah, en fait, je pense comme vous. Mais bon, il faut d'abord prendre le compliment. Et puis après, on peut nuancer le compliment en disant, franchement, vous exagérez quand même. Jean-Pierre Jeunet.
Il y a des gens dans la rue qui vous appellent Cathy Tuche.
Oui.
Parce que c'est un film qui plaît énormément aux enfants. C'est incroyable, ouais, ça. Ouais. Parce en que fait, vous dites que les Tuches n'ont pas de méchanceté, c'est ça?
C'est des enfants. Mmh. Les Tuches, ils sont enthousiastes. Ils aiment tout, plus. Et voilà. Et ils sont pas... Ils ont un goût qui est le résultat du plus. C'est-à-dire, s'ils mettent une couleur, ben, ils mettent une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis ça fait beaucoup de couleurs ensemble. S'ils mangent, ben, c'est des frites, mais comme ils aiment le gratin aussi, ben, ils mangent le gratin et les frites. Enfin, c'est comme les mômes.
Et dans Prof, vous avez aussi créé un personnage de professeur incroyable. Vous avez tout mis, les auréoles, la façon improbable de s'habiller. Et vos amis vous disent d'arrêter de vous déguiser. Quand ils vous ont vu dans les Profs, ils ont dit, ah ben là, ouais. Ils vous ont dit quoi?
J'ai une amie qu'on a d'ailleurs en commun, Nathalie, qui m'a dit, oh là, il faudrait quand même un petit peu que tu soignes un petit peu. Enfin, tu joues un peu des rôles un petit peu où, je sais pas, t'es bien habillée.
Et vous en pensez quoi de ça, de ce genre de conseil?
Complètement. Moi, je réponds aux invitations de mes copains. Là, c'était Pierre-François, ouais. Martin Laval. J'ai une perruque rousse, j'ai des grosses lunettes. Voilà, je sais qu'on va se marrer, donc je m'occupe pas de quel aspect j'ai.
Vous dites que vous lisez rien de ce qu'on écrit sur vous dans les réseaux sociaux, Isabelle?
Rien.
Le box-office non plus?
D'ailleurs, j'en profite pour dire que les comptes Twitter...
ce ne sont pas les vôtres.
...sont faux. Voilà.
Parce que donc, vous, non.
Bon, ouais, je n'ai absolument aucun réseau social, ni même Facebook, ni rien.
Même sur Tinder, parce qu'on a rendez-vous ce week-end ensemble. Je suis vachement déçu, moi.
Franchement, le jour où je serai sur Tinder, si, je ne sais pas, je serai passée d'abord à Lourdes.
Vous préfériez demander à Lourdes un homme que d'aller sur Tinder?
Ouais, je pense.
Vous avez déjà été à Lourdes?
Non, jamais.
Bah, il faudrait peut-être.
C'est l'occasion.
Ouais. Mais par contre, j'ai de l'eau bénite chez moi qu'on m'a offert.
Ouais. C'est vrai?
Ouais, il paraît que si j'en mets un petit peu comme ça, ça va changer ma journée. Et j'ai un peu oublié de le faire.
Ah. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit changé dans votre journée?
Dans ma journée?
Ouais.
Bon, non, j'aime bien. Moi, il se passe toujours un truc dans une journée. Là, en ce moment, je suis au Théâtre Antoine avec Édouard Baird qui prépare un spectacle. Et,
vous faites la mise en scène?
Non. Non, on est là, on est plein à l'accompagner là-dedans, Eugénie Poumaillou, Marc Agige, tout ça, on est tous là. Mais
et
Edouard voilà.
Baird qui a été votre élève au cours Florent, comme les Robin des Bois aussi.
Oui, si on peut dire que ce sont pas des élèves.
Hein. Bah quand même,
ce sont des maîtres. Oui, non, mais c'est génial comme des fois les
choses s'inversent, c'est ça.
Les situations s'inversent, même à l'époque. Hein. On pourrait croire que c'est moi qui les aide à accoucher d'un truc, mais en fait, c'est eux qui me sortent...
C'est donnant-donnant.
Ils me sauvent.
Ben H, je ne sais pas s'il va vous sauver, voilà. Il a des choses à vous dire.
En parlant d'accoucher d'un truc. Isabelle.
Bonne chance.
Ah non, on a dit accoucher, on n'a pas dit coucher.
Non, on va rester sur l'accouchement, vraiment. Isabelle Nanty, avant d'être la metteur en scène de la pièce L'Hôtel du Libre-Échange, de la Comédie Française, s'il vous plaît. Vous avez également donc, mis en scène quelques one-man show et one-woman show devenus pour certains des références dans le genre. Et j'aimerais que vous ayez en tête, tout au long de ce papier, chère Isabelle Nanty, que j'écris actuellement mon nouveau spectacle, que je n'ai pas encore de metteur en scène. Deux informations qui, vous le verrez, n'auront strictement aucune conséquence sur l'objectivité de la chronique qui va suivre. Isabelle Nanty, actrice majeure du début du XXIe siècle.
Très bon choix de musique.
Talent comique inné, sens du rythme et de l'interprétation, Isabelle Nanty se classe de son vivant au panthéon des comédiennes de génie. Interprète rare, transformant n'importe quel bout de texte prêt à porter en réplique haute couture, Isabelle Nanty sait mélanger talent comique et rôle plus dramatique, tel un pianiste virtuose mêlant avec brio les graves et les aigus pour faire de chacun de vos rôles une symphonie qui sonne juste. Alors quand je dis que je n'ai pas de metteur en scène, Isabelle Nanty, ce n'est pas que d'autres ont dit non avant vous, hein. C'est pas ça, c'est juste que j'ai pas encore demandé à quelqu'un. Et dans l'hypothèse où je vous enverrai mon texte, vous seriez la première. Voilà, et j'ai bien conscience que ce n'est pas du tout le sujet. Qui dit Isabelle Nanty dit succès. Au box-office et partout où elle passe. Aujourd'hui, Isabelle Nanty, c'est Tati Daniel, c'est Cathy Tuche et Gabriel Munch, sans parler de sa présence entre autres dans Amélie Poulain, on l'a dit. Autant dire qu'Isabelle Nanty est entrée au moins une fois chez tous les Français. Tous les Français qui lui rendre bien en l'élevant parmi ses actrices préférées. Sans doute parce que derrière le masque du talent, derrière la magie de l'actrice, se cache une femme au grand cœur. Et vous remarquerez que je ne suis pas du tout du genre à cirer les pompes des gens pour obtenir quelque chose. Hein, pas de ça chez moi, on se connaît pas Isabelle, mais pour vous séduire, j'en connais plus d'un à ma place qui vous aurait fait un papier élogieux. Moi, je resterai objectif et factuel. La légende raconte qu'au moment de mourir, Molière en personne aurait déclaré deux choses. Dites à tout le monde que j'étais sur scène, parce que mourir dans un bar à pute pour la légende, c'est pas tip top. Et deuxième chose, surtout, dites que mon seul regret dans la vie, ce n'est pas d'avoir vécu à l'époque d'Isabelle Nanty. Bon ok, là j'en fais peut-être un petit peu trop, mais le message est passé, il est engagé, il est à contre-courant. Je pense que c'est la première fois qu'on vous le dit, je suis dans l'ivérance la plus totale. Oui, je vous aime Isabelle Nanty. N'en parlons plus Isabelle, je vous envoie le texte dans quelques semaines. J'étais ravi de vous rencontrer.
Je vous donnerai mon adresse.
On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de ce best-of avec notre invitée, la comédienne, réalisatrice et metteur en scène Isabelle Nanty. Ne bougez pas.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi férié avec Jean-Philippe Bizzini, Ben H, Christine Bérou et notre invité pour lequel vous avez beaucoup beaucoup sympathisé, Ben H, Isabelle Nanty.
J'ai essayé en tout cas.
Vous avez essayé de sympathiser.
J'ai essayé bien sûr.
Et depuis
Depuis elle court et on l'a pas reçu.
Trop de sympathie.
Trop de sympathie, on écoute. Vous avez fait des petits boulots, Isabelle Nanty, vous avez tout de suite été actrice.
J'avais des fantasmes d'enfant comme ça. Je voulais être serveuse, alors j'ai commencé par vouloir emballer les paquets à Noël j'ai pas tenu une heure parce que le scotch s'accrochait au papier et déchirait le papier, donc il fallait recouper un truc. Enfin bon, j'étais nulle. Donc les petits boulots, j'ai pas été capable de le faire. Le premier vrai petit boulot, j'ai été machiniste. Non, j'étais poursuiteuse avec Éric Tarot au Théâtre Antoine.
Je me souviens.
Voilà.
J'avais vu.
Ouais.
Mais vous vous tripotiez un petit peu.
Alors là, j'étais là, excuse-moi, je m'en rappelle très bien.
Théâtre Antoine, là-haut.
Oui, oui, et là, moi, j'étais voir Huster et je vous ai vu à la poursuite. Et vous. Alors, et là, la poursuite, elle battait.
Hein? Alors, vous pensez qu'on se tripotait parce que la poursuite hochait un petit peu comme ça. Car je vous explique, on était deux poursuites et il fallait que les poursuites soient ensemble.
Se rejoignent.
Or, on se racontait des blagues. Et donc, on rigolait et c'était très, très sensible, ces poursuites. Ouais, et un jour, Huster, pour nous faire une blague, il a quitté la poursuite. Et comme c'était le seul éclairage, il s'est retrouvé, il a attendu. Et tout d'un coup, on a regardé et il n'était plus dans la poursuite. Et donc, on a fait les miradors comme ça, on a balayé la la scène pour le retrouver. Il était en coulisses, il s'était planqué.
Léa Landau a des questions à vous poser.
Isabelle Nanty, vous êtes parmi nous donc pour la pièce de Fedo, l'hôtel du libre-échange. Et ne me demandez pas pourquoi, je vous ai préparé une interview échangiste. Okay.
Ah ouais.
Donc, voilà.
On reste dans le tripotage.
On reste dans le tripotage.
Bien sûr.
Si vous pouviez, par exemple, échanger votre vie à Paris contre une vie ailleurs, ne serait-ce que quelques jours, ce serait où?
Ah ben, en Norvège.
Ah ouais?
Ouais.
Ah. Je vous vois bien avec un Norvégien, moi.
Ah bon?
Ouais.
Bah dites-leur.
Vous êtes jamais sorti avec un Norvégien?
Non.
Et c'est vrai que vous avez un cousin qui joue dans Game of Thrones.
Ouais.
Je voulais la placer depuis tout à l'heure.
Christopher Eveu.
Qui joue Tormund.
Ouais.
Ouais.
Ah ouais.
Ouais.
C'est le fils de ma cousine.
Et alors, si vous deviez le temps d'une journée échanger votre vie avec quelqu'un, avec celle de quelqu'un autour de cette table, ce serait qui, Isabelle Nanty?
Prenez pas la mienne, hein.
Juste pour voir si vous avez de la chance.
Dites-moi pourquoi.
Non, bah, c'est fade, moi, c'est fadasse.
Ah bon?
Oh, oui.
Vous ennuyez?
Oh oui.
Pourquoi?
Oh bah, moi, je suis marié, une femme, deux enfants. Là, là,
c'est... Ah, c'est ennuyeux?
Oh, c'est ennuyeux.
Là, il manque plus qu'une mégane scénique et une corde.
Il y a beaucoup de gens qui rêveraient de tout ça.
Mais
elle a
une femme magnifique.
C'est ce que j'embrasse et qui m'écoute, malheureusement.
Voilà.
Isabelle Nanty, si vous aviez pu changer qui vous êtes dans la vie avec un de vos personnages que vous avez joué, ce serait lequel? Tati Daniel, celui de prof ou des tuches, ce serait lequel?
Aucun.
Aucun?
Oh bah non, c'est justement ça qui est marrant, c'est qu'on met le pire de soi dans tous les personnages, ou en tout cas des secrets, c'est complexe, Voilà, donc en fait, on se soigne, on les évacue dans les personnages.
Dans les
personnages. Ah non.
Et vous seriez prête à échanger une nuit seule dans un hôtel de luxe contre une nuit à deux dans un vieux rad?
Une nuit seule dans un hôtel de luxe contre une nuit à deux dans un
vieux rad?
Oh bah non, l'hôtel de luxe ne m'intéresse pas.
Ouais, oh, il vaut mieux être deux.
Bah la nuit à deux, c'est...
Ouais. Ouais, bah ouais.
La vie à deux.
La vie à deux.
Bah ouais.
Vous aimeriez vivre avec quelqu'un?
Que
vous
dites, moi, je suis hyper facile à vivre.
Mais vous dites, je n'ai jamais rencontré quelqu'un
c'est
ayant
un
eu
message.
Envie.
Hyper facile à vivre.
Vous dites, je n'ai jamais rencontré quelqu'un ayant eu envie de partager ma vie. C'est vrai, ça?
C'est vrai.
Vous avez des tas d'histoires d'amour, quand même.
Oui, mais jamais personne n'a voulu partager sa vie avec moi. Mais bon, on ne va pas faire ma...
Allonge-toi,
Isabelle. Allonge-toi. Non, mais ce n'est pas grave. Non, mais franchement, je n'ai pas de frustration.
Ça va venir.
Mes frustrations, ça c'est sûr.
Non.
Avec la hanche en plastique et le...
Ça va venir avec un Norvégien. Allez en Norvège, vous allez voir.
C'est vrai, vous êtes un peu voyant.
Oui, très vite fait. Qu'est-ce que vous avez en double dans la vie que vous aimeriez changer si c'était possible, Isabelle Nanty? J'ai posé la même question à une amie, elle m'a dit mes gosses.
Mes seins.
C'est vrai?
Oh ouais.
Pourquoi?
Bah, je les ai en double. Déjà.
C'est mieux.
Et puis voilà, ouais.
Vous pensez que Anne Romanoff ferait une super bonne Tati Daniel si on faisait un numéro 2?
Non. Non.
Qu'est-ce qui lui manque?
Elle ferait pas une bonne Tati Daniel. Non, elle ferait une Mamie Gâteau, une...
Les gâteaux, oui. Il va pas en rester grand-chose. Hein.
Bah oui, justement. Non, moi j'aimerais bien jouer avec Anne.
Ah ouais?
Ouais.
Plutôt aussi, théâtre ou
je sais pas. Pour le moment, moi je peux pas jouer au théâtre parce que j'aimerais bien quand même être chez moi le soir. J'ai une fille avec qui j'aime bien être le soir.
D'ici donc, combien de temps?
Mais dans... Ouais. Ben dans 3-4 ans.
3-4 ans, une pièce pour toutes
les
deux.
Ouais,
ok,
plaisir.
On part ça pour la table 12. Allez,
allez.
C'est déjà la fin de ce best-of.
Oh, c'est passé vite.
Oui, mais on sera de retour dès demain, vendredi, pour une émission toute fraîche avec Jean-Philippe Busini.
Plus que Christine.
Quoi? C'est pas très difficile d'être plus fraîche que Christine en ce moment.
Merci beaucoup. Gratuit, très bien.
Non, mais c'est l'ascension, c'est un jour de pardon, Christine.
Oui.
On irradie toutes les deux d'amour l'une pour l'autre.
Ah, mais oui. Bien sûr, évidemment.
On se retrouve, nous on vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin qui sera là jusqu'à 14h et nous on sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.